Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec les sorties du 19 juin. Bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Bonjour Mathis, Lydia et Léonie.
Bonjour. Bonjour.
Il nous en manque un. Eh ouais.
Il est malade.
La maladie est passée par là. On va parler cinéma. Et oui, le 19 juin, il y avait encore nombreuses sorties du cinéma. Et on vous a prévu 4 films à découvrir avec nous. On va commencer par The Bike Riders.
Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandales, et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang, dirigé par l'énigmatique Johnny, évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandales deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang.
C'est un film de Jeff Nichols, d'après l'œuvre de Danny Léon, et scénarisé aussi par Jeff Nichols. Alors, Mathis, tu as été voir le film?
Exactement, j'ai été voir le film et j'ai beaucoup aimé le film. Donc on plonge directement dans l'ambiance des motards, dans l'ambiance de l'époque. Honnêtement, si je peux me permettre un seul léger point négatif, c'est le rythme qui est un peu hachuré par ses retours aux journalistes, puisque c'est tiré d'une histoire vraie d'un journaliste qui a suivi le gang de motards. Et donc on a tout au long du film un retour à ce journaliste. Ça hachure le film, mais d'un autre côté, ça intensifie les scènes où il se passe des choses et on a envie de les revoir puisque d'un coup ça se calme. Et après le jeu des acteurs, Tom Hardy avec sa voix qui est incroyable. Moi je suis un amateur de version originale donc j'ai adoré le jeu de Tom Hardy dans la voix. Les musiques, on est dans l'époque, on est dans l'ambiance, on est dans le rock'n'roll. C'est un très bon film. Pour moi un très très bon film.
Oui, et puis il y a de très très belles interprétations. Hein. On parlait de Tom Hardy, Johnny, qui est le chef. Alors c'est pas un gang, c'est un club en fait, un club de motards qui s'est monté avec des codes bien précis. Et oui, on a dans ce club Danny, qui est journaliste et qui recueille un peu la vie de ces sacrés personnages avec Benny qui est joué par Austin Butler, Zipko.
Ah oui, Zipko.
Zipko
oui.
Qui est joué par Michael Shannon. On a Damon Erigman qui joue Brucey. On a de bons personnages qui nous donnent cet entrain et ce côté rebelle, motard, à fond dans la moto. Et puis on a Cathy qui est jouée par Jodie Comer et qui raconte justement avec le journaliste Danny qui est joué par Mike Face.
Et on a aussi Norman Reedus et qui est Daryl de The Walking Dead qui dans le côté rebelle, qui de mieux pour interpréter quelqu'un de rebelle que cette personne-là. Qui malheureusement je trouve n'a pas assez de place dans le film. Il aurait mérité d'avoir plus de répliques.
Il a une gueule bien cassée. Moi j'ai adoré le voir dans ce rôle et puis il a un petit faible pour Cathy. On le sent on le sent bien, mais il y a des codes à respecter. On touche pas à la femme d'un autre, donc il reste bien à sa place et par contre il la protège, il essaye d'être là pour elle.
C'est ça.
Léonie, t'as été voir le film, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi j'ai adoré, comme l'a dit Mathis, j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance qui est créée, que ce soit dans les jeux de lumière qui sonnent un peu carte postale, voilà, j'aime beaucoup ça. Et après la bande son est géniale aussi, ce qui accompagne très bien le film. On l'entend à des moments importants et c'est beau à écouter. Et puis c'est vrai que les acteurs sont très très forts dans le film. Toute l'ambiance est géniale en fait.
Ouais, c'est vrai. Et puis ces motards qui font des pique-niques assez fous qui déraillent un peu à des moments et on les voit avec une tête brûlée. Hein. Benny, c'est vraiment la tête brûlée du groupe qui peut partir en un clin d'œil quoi.
C'est ça, puis le jeu d'Austin Butler, j'ai l'impression et j'ai envie de dire comme d'habitude, est incroyable. C'est la tête brûlée. Et une phrase qui m'a marqué dans le film, c'est quand Johnny il dit que Butler, Benny, c'est l'image que tous les membres de ce club aimeraient être. Il représente ce que tout le monde veut être, en fait. Et lui, il l'est naturellement. Et c'est ça, c'est une tête cramée, comme ils disent.
Et on les voit forts de caractère, qui ne pleurent pas, qui ne versent pas de larmes, même quand ils prennent des coups assez durs. Juste se dire que si jamais ils peuvent pas guérir, ils peuvent pas remonter sur une moto. Et ça c'est rédhibitoire. Ils veulent refaire de la moto quoi qu'il arrive.
Et c'est ça, c'est la moto, le personnage principal du film. Et le lien qu'ont les membres avec la moto également. C'est ça qui tourne beaucoup dans la thématique du film. Et c'est justement ce lien qui va changer au fur et à mesure du temps. Et on va le voir évoluer en bien ou en mal. Et c'est là toute l'énigme du film.
Il y a un noyau du club qui est très très fort. Et puis, petit à petit, il s'ouvre et il laisse rentrer des nouveaux. Et là, il y a, après la guerre du Vietnam, il y en a qui reviennent et qui sont très affectés. Et on le ressent dans les façons. D'ailleurs, c'est Cathy qui en parle avec le journaliste et qui explique ce qui a changé et tout ce qui a gravité et ce qui a donné une évolution néfaste au club.
Et par exemple aussi, on voit que du coup, avec cette évolution, il y a des divisions qui viennent. Par exemple, ils évoquent l'idée de ceux qui fument et de ceux qui boivent et de ceux qui prennent des substances. Voilà, ils commencent à se diviser aussi entre les anciens et les nouveaux, qu'on ressent beaucoup, ceux qui viennent de Californie, par exemple. Il y a un personnage dans le film qui apparaît. On voit bien l'évolution du petit club de course, au final, au début, qui devient, en fait, une sorte presque de ligue, on a l'impression, de motards dans toute la côte ouest des États-Unis.
Oui, c'est vrai. Et puis
c'est une démonstration de la déflagration des États-Unis à cette époque-là, après la guerre du Vietnam. Et pour revenir sur ce que disait Léonie, en fait, c'est à la base, le club se divisait entre deux, les jeunes et les vieux. C'était quelque chose d'assez gentil, entre guillemets. Il y avait ceux qui préféraient fumer, ceux qui préféraient boire. Et après le Vietnam, on passe un stade, on passe un cap. On en arrive à ceux qui se piquent, qui prennent de l'héroïne. On voit que les membres sont beaucoup plus violents, beaucoup moins moraux. Alors que déjà, à la base, c'est des délinquants. Mais en fait, on voit que cette échelle, elle se modifie. Et on passe un cap. Et je pense qu'au-delà des motards, c'est la société américaine qui a passé un cap à cette époque.
Tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est assez fort parce qu'on sent aussi cette jalousie chez les jeunes qui se disent « Moi, je me verrais bien à la tête du club et tout modifié. » Et on sent ces rivalités et surtout... cette envie de faire partie du club, et quand il y en a un qui est bien mis de côté, ça donne une escalade de violence.
Oui, puis on voit que les jeunes, ils ont plus la même mentalité. On suit un jeune un peu dans le film à différentes scènes qui essaye de rentrer, et en fait, il essaie d'entrer, mais coûte que coûte, quitte à lâcher ses amis, sauf que à la base, l'esprit du club, c'est un club d'amis, on ne lâche pas ses amis, ça fait partie
cette
des
scène,
règles.
Cette scène, elle est très belle, hein, oui, à l'extérieur magnifique. Et tout, ouais. Elle est très très bien faite. Il dit, ok, laisse tes amis. Et là, ce qui répond, Johnny fait, non, c'est bon, tu rentreras jamais dans le club.
Et la réponse ensuite du jeune en démontre toute cette déflagration de la nouvelle génération.
Ouais, c'est vrai, arriver coûte que coûte, même en laissant tomber les autres, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une belle alchimie aussi entre Cathy et Danny, qui prend en compte ce que lui raconte Cathy et qui le vit, et en même temps qui se dit bon, peut-être que j'ai loupé beaucoup de choses et j'aurais voulu être là, peut-être que je sais pas comment j'aurais réagi. On ressent, même s'il dit rien, on ressent tout ça par ses regards, par sa gestuelle, par sa façon d'être.
Ouais, mais même dans ses paroles, moi je me souviens d'un discours qu'il avait eu avec un des motards, je sais plus le nom, mais la tête cramée du groupe, celui qui est tout le temps ivre, qui manque toutes les dents, et bref. Et il parle, ce motard-là, des personnes qui ont fait des études, qui les méprisent, etc. Et il se trouve que le photographe est d'accord avec lui, parce qu'il parle pas. Et à la fin, ça finit par le motard qui lui demandait « Toi, tu fais quoi ?» Il fait « Ben moi, j'étudie la photographie. » Et c'est là qu'on voit qu'en fait tout le monde est humain, parce que même les motards finissent par s'entendre avec lui. Et oui, c'est un personnage qui s'intègre bien. C'est un personnage qui s'intègre avec tous les personnages.
Et aussi après, on peut voir l'évolution dans les règles, dans le. C'est vrai, ils ont tout. Il faut respecter toutes. J'ai plus du tout le mot. Enfin, tous les codes de leur club et enfin club, voilà, de leur groupe. Et par exemple, au début, enfin par exemple, il y a un personnage qui va vouloir petit à petit partir du club. Et c'est vrai que les réactions sont totalement différentes entre les nouveaux et les anciens. Et on voit que, et c'est là qu'on voit le début d'une grande différence entre les nouveaux et les anciens, en fait.
Oui, parce que comme je le disais, c'est un noyau, c'est une famille entre eux qui sont faits, donc ils se protègent les uns les autres, quitte à se protéger, même s'il y en a qui respectent pas les codes, et à aller au devant pour que la personne puisse survivre, parce que c'est pas gagné.
C'est ça. Et c'était pour dire que j'étais totalement d'accord avec ce que venait de dire Léonie, et que c'est vrai que ce personnage qu'on appelle Cafard dans le club, pour moi c'est la démonstration de ces générations qui changent.
Oui, tout à fait. Vous pouvez découvrir ce film. Nous, on l'a vu au Pathé Wilson. On vous le conseille, en tout cas, d'aller voir ce très beau film, The Bike Riders. Et je vous propose d'écouter vos avis.
Franchement, moi, au début, j'y suis allé pour les acteurs, principalement. Et puis après, l'ambiance, la musique, le thème général, quoi, ça m'a plu, ça m'a accroché. On rentre bien dans le film. Il y a des petits moments de lenteur avec les retours dans le passé avec le journaliste. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un super film, je trouve. J'ai vraiment bien aimé la direction.
Ouais, ben moi, j'ai adoré le film. La réalisation est top. Le casting est super bon. Austin Butler, Tom Hardy et l'actrice Jodie Comer. Non, vraiment, le film est génial. La fin est parfaite. Non, vraiment, j'ai vraiment adoré.
Je pense fonder un club de balade.
Pourquoi ? Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane.
C'est ce qu'on fait aussi.
On a des liens avec personne, alors le club, c'est un lien entre nous.
Et c'est toi le président ?
Je m'appelle Johnny. On est les vandales.
Moi, c'est Benny.
Je vous aime bien.
Tes copains vont avoir des problèmes.
Qu'est-ce qui t'a pris ?
Rien, j'ai vu que ces mecs voulaient te tabasser. Pourquoi j'aurais réfléchi ?
Ouais, toi et moi, hein ?
Johnny a toujours adoré Benny.
C'est notre famille. Pour toujours.
Hé ! Je t'ai dit d'enlever ce blouson.
Faudra que tu me tues pour que je l'enlève.
Pas de problème. Je te laisse te tirer. Qu'est-ce qu'on fait du bar ? On le brûle.
Faut se tirer de là.
Non, pas la peine. Ils ont tous peur de nous. Tous ces jeunes gars. C'est pas le genre à suivre quelqu'un qui aurait pas la carrure.
Le club, il est en train de changer. Trafic de drogue, jeu d'argent.
C'est ça le club maintenant.
Tu l'auras jamais, il est à moi. S'il continue à faire de la moto, il va mourir d'une manière ou d'une autre.
J'ai besoin de toi.
Des gars qui préfèrent foncer plutôt que freiner.
Le deuxième film dont on va vous parler, c'est Maria. Maria qui a été présentée au Festival de Cannes. Ça a été un grand moment.
Maria n'est plus une enfant et pas encore une adulte lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte, Le Dernier Tango à Paris. Elle accède rapidement à la célébrité et devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale.
Ouais, Le Dernier Tango à Paris. Quand ce film est sorti, ça a fait beaucoup débat, ça a créé des émulsions. Beaucoup de personnes se sont dit pourquoi cette actrice a été aussi loin. Il y a des scènes très 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 dures dans ce film, et dont une qui a fait beaucoup de mal à cette actrice. C'est un film qui a été réalisé par Jessica Palud, d'après l'œuvre de Vanessa Schneider. C'est un film qui est porté et qui est magnifique par rapport à l'interprétation de Anna Maria Vartolomei, qui joue Maria Schneider. Franchement, elle fait un tour de force incroyable. Elle est dantesque dedans. On croit à toutes ses émotions, on croit à tout ce qu'elle vit. Et oui, elle joue, elle interprète, elle incarne ce personnage avec tellement de ferveur que ça en devient waouh.
Ouais, elle était super brillante dans le film. Et après, on voit également un autre personnage qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment. Et on voit aussi, son amie Nour dans le film, qui elle aussi est brillante. Et c'est vrai que ce qui est beau à voir, c'est toutes les facettes du cinéma qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'a pas pu voir à l'époque. Et que là, on voit l'avis de la personne qui était la plus concernée par la scène, qui l'a vécu, qui en a subi les conséquences plus que les autres, comme on a pu l'entendre, les autres étaient partis de Paris et il n'y a eu qu'elle pour affronter la foule, la presse et tout ça, tout l'aspect médiatique. Et c'est ça qui est super, intéressant, de voir comment elle, d'une scène en fait qui l'a marquée, toute sa vie a pris un tournant totalement différent.
Ouais, dans ce film qui a fait scandale. Le Dernier Tango à Paris, Maria Schneider tournait avec Marlon Brando, un grand monsieur sous la direction du réalisateur Bernardo Bertolucci. Et c'est vrai que, eh bien, ce qui est mis en place, c'est horrible, c'est une vision atroce de ce qu'a vécu cette femme. Alors Marlon Brando est extrêmement bien joué par Matt Dillon. Il reprend toute cette candeur, tout ce fait de dire c'est qu'un film, hein. Après tout, c'est horrible, cette scène où il finit, il ne s'excuse pas, il lui dit juste « ce n'est qu'un film ». Alors que ce qui s'est passé, la scène qu'on a vue est vraiment... on a du mal à prendre, on se dit oui, c'est du cinéma, mais c'est vrai que c'est très fort, et tu te dis que ça s'est réellement passé, que cette scène-là a eu lieu, et que Maria Schneider, eh bien, ça l'a complètement détruite. On voit l'avant et l'après. Il faut dire que Maria Schneider, c'est la fille illégitime de Daniel Gélin, un grand acteur, un homme qui avait pignon sur rue, qui était très très connu, et qui jouait merveilleusement aussi par Yvan Attal, il faut le dire. Il incarne vraiment bien ce personnage, et donc il retrouve sa fille, vient le voir à l'âge de 16 ans, et il veut rencontrer son père. Elle rentre dans l'univers, les coulisses du cinéma, elle est proche de lui, elle est protégée. Et puis, il va se passer que sa mère, Marie-Christine, qui est jouée aussi incroyablement par Marie Gillin, je peux pas dire, mais les interprétations sont vraiment très fortes et très, il y a énormément d'émotions. Et Marie-Christine, elle comprend pas, cette mère ne comprend pas qu'elle veut voir son père après 16 ans, un père qui n'a jamais été là, qui ne l'a pas reconnu, qui ne veut pas d'elle dans sa vie. Et qui a refait sa vie, qui a d'autres enfants. Et c'est vrai que bon, elle a la dent dure, et elle le fait subir à Maria Schneider. Et c'est, on ressent toute cette haine, toute cette colère pour Daniel Gélin chez Marie-Christine. Et c'est des scènes assez dures. Donc elle se sent expulsée, pas bien dans sa famille, et se dit pourquoi pas me tourner vers le cinéma, pourquoi pas, parce que ce que fait mon père, j'aime bien, je vois ça. Et elle va se mettre à fond, elle va rencontrer un agent Stanislas Mérard joue l'agent. Lui aussi, il est vraiment horrible à des moments.
Oui, abominable.
Et donc, il la met en relation avec Bernardo Bertolucci, qui lui dit, je veux absolument que ce soit toi qui fasses le rôle avec Marlon Brando. Elle est toute jeune. Elle commence, à cette époque-là, elle a 19 ans. Elle n'est pas majeure à l'époque. En 1972, n'était pas majeure.
Ah,
elle
okay.
a 19 ans et on était majeure à 21 ans puisque c'est en 1974 qu'est passée la loi. Et du coup, voilà, on voit son évolution et à 19 ans, eh bien, elle va être sur le feu de la rampe et malheureusement, il va se passer des choses qu'elle va dire. Et on voit cette réaction d'un journaliste à un moment, il y a une scène très forte, on voit la réaction du journaliste et petit à petit, ça va être une descente aux enfers pour elle, complètement détruite. Elle va rencontrer des personnes qu'il ne faut pas qu'elle rencontre. Et une, tu en parlais tout à l'heure, Céleste Brunkel qui joue Nour, qui écrit un mémoire, qui veut comprendre... comment Maria Schneider vit et puis qui a beaucoup beaucoup d'admiration pour elle et qui va se transformer en amour et ça voilà c'est savoir si elle va réussir à sauver Maria Schneider de la descente aux enfers ou au contraire si elle va l'emmener avec elle dans cette descente et ça aussi c'est très important.
Oui, c'est vrai, en fait elle devient un appui émotionnel un petit peu pour Maria Schneider, et c'est là qu'on voit son importance, toute leur relation également est importante, et d'un côté, ça nous permet de voir comment elle peut l'aider, quitte à subir une partie de la relation, en fait.
Ouais, tout à fait. Et je vous propose d'écouter les avis des spectateurs qui étaient présents pour voir le film au Patty Wilson.
Oui, ça m'a bien plu. J'ai apprécié, j'aime beaucoup l'actrice et j'ai trouvé que c'était très intéressant.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Catherine.
C'était bien joué, oui, quand même. C'est tout ce que je peux vous dire.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Régine. C'était très joli. C'est toujours bien... je ne peux pas le dire.
Merci. Bien. Interpréter ?
Oui. C'était tout seul, j'arrive pas.
C'est super parce que c'est assez simple, cru, et ça montre. Ouais, c'est. En plus, je sais pas si c'est la première fois qu'elle fait le rôle, la fille là. C'est son premier rôle, mais c'est. Voilà, on est pris un peu dans le jeu, aller un peu les coulisses de le tournage, oui. Et en plus, c'est un film qui retrace dans les années, je crois, 70, oui. Et si on transpose, comme par hasard, on s'est
confus.
C'est un truc de fou. Est-ce que déjà, ils étaient en avance. La vie est en avance sur le rôle de la femme, qui là, à l'époque, était considérée comme second rôle de femme dans le point de vue. Et là, donc, c'est parce que un film qui était avant-gardiste. Non, enfin, mon point de vue. C'est bon.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
David.
Et moi, j'ai adoré parce que il y a beaucoup de. C'est suggéré, c'est pas présenté comme ça de façon très dure. Et j'ai bien aimé le point de vue de Maria parce que tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'était de l'autre côté de la barque. C'était vraiment. Enfin, moi, j'étais bouleversée.
Ouais. Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom ?
Marie. J'ai bien aimé. Oui, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Je connaissais pas cette jeune actrice là qui joue le rôle principal de Maria Schneider. Et oui, mais j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, on voit bien les dégâts que peut faire un viol comme ça. Enfin, c'est vrai que ça paraît fou quoi que ça ait pu arriver quoi en fait hein. C'est vrai que on se dit ben heureusement que les temps changent quoi hein. Voilà, heureusement qu'on est à l'ère de MeToo quoi et on espère que ce genre de choses n'arriveront plus quoi, tout simplement. Voilà,
merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom?
Violaine.
Dylan joue très bien, il est crayon de vérité. Je trouve qu'il fait un Marlon Brando vraiment très proche de de l'acteur réel. C'est assez étonnant, cette façon de regarder sans regarder. On retrouve Brando vraiment tel qu'il était dans le film dont il est question. Puis le dernier point, oui, le dernier Tango à Paris, moi je me souviens du bruit, parce que je suis suffisamment âgé, je me souviens du bruit qu'avait fait le film à l'époque, mais c'était plus le scandale du fait de scènes de nu plutôt que de la répercussion qu'il pouvait y avoir sur une actrice. Et ça, on est complètement passé à côté. C'est ça qui est fou. Et heureusement, bon, mais il y a les mouvements d'aujourd'hui où effectivement, là, on s'apercevrait que c'est désastreux, quoi. C'est impossible. Et c'est une très bonne chose. Parce que c'était une actrice extraordinaire, hein, Maria Schneider. Bon, elle avait hérité de son père, peut-être, mais bon, elle a pas fait la carrière qu'elle devait faire, c'est évident. C'est évident. Donc ça fait de gros dégâts pour 5 minutes d'image. Voilà.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Jacques.
Voilà, comme le disait le monsieur, hein, à cette époque-là, on avait le point de vue du réalisateur, de Marlon Brando, et eh bien, on ne prenait pas en compte la vie de Maria Schneider, et c'est ce film qui ouvre les portes, qui ouvre les voies, et on se dit, ben, il y a une femme aussi qui le dit très bien en avis, que bien, l'air Me Too, ça sert à quelque chose, et le fait d'avoir fait ce film, ça montre aussi que ça date pas d'hier, hein, que il y a des choses qui sont passées, il y a des choses qui se sont tues. Il y a Judith Gautrèche qui montait dernièrement, qui a fait une très très belle élocution au Festival de Cannes. Il y a certaines quand on parlait un peu à droite à gauche, elle est venue aussi au César, elle a parlé, et ça, enfin, moi je pense que c'est très important de prendre en compte ces personnes-là et ces scènes-là. Maintenant, sur place, donc sur le film, Maria, eh bien, il y avait des coordinateurs d'intimité, ce qui permet la tranquillité des acteurs, des actrices, pour ces scènes justement de où il y a vraiment bien ce côté charnel, ce côté où il risque d'y avoir rencontres et des mains baladeuses, des choses comme ça. Et donc voilà, ils sont vraiment encadrés par ces coordinateurs ou ces coordinatrices d'intimité. Et c'est vraiment un métier qui a vu le jour aux États-Unis et qui est maintenant présent en France. Et je trouve que c'est une avancée assez importante.
Oui, et puis c'est vrai, cette partie est très importante, et puis le fait également que aujourd'hui ce n'est plus seulement des hommes qui sont à la direction d'un film, il y a également
les réalisatrices, oui, tout à fait.
C'est ça. Mm-hmm. Et il y a une phrase qui m'a énormément marquée dans ce film, c'est quand elle dit "Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été violée par deux hommes."
Oui.
Et cette phrase, c'est comme un uppercut en fait. Elle est super dure à encaisser. Parce que c'est vrai qu'elle, elle était totalement... Elle savait pas ce qui allait se passer. On lui a dit « Oui, t'inquiète, vis la scène !» Mais au final, c'est abominable.
Je voudrais être actrice.
Vous vous appelez comment ?
Maria. Maria Schneider.
Vous avez quel âge, Maria ?
19.
Vous seriez la deuxième tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui.
Brando ? Mmh.
Bernardo, Monsieur Bertolucci.
Il y a une scène très crue dont tout le monde parle.
Vous êtes allé loin ?
Comment vous avez fait pour l'aborder ?
Est-ce par surprise ?
On s'en fout de la vérité de ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre.
Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle.
Vous entendez ? Me regardez pas !
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue.
Pas comme ça. M'habiller, j'intéresse personne.
Accroche-toi.
Coupé.
Le troisième film dont on va vous parler, c'est Vice Versa 2. Un film qui était très 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 attendu 9 ans après le premier.
Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule.
Bah oui, on avait quitté Riley avec des émotions, hein, la joie, la peur, le dégoût, la tristesse. Et c'était vraiment la colère. Attention, la colère. Oui, la faut colère. Pas oublier la colère. Bah oui. Donc elle avait des émotions, elle était très forte. Et puis on avait quitté sur une dernière en se disant joie qui expliquait, qui disait qu'est-ce qui pourrait arriver bientôt. Et on voit le bouton puberté se mettre en place et on se dit oh là là, qu'est-ce que ça va être pour la suite. Et ça y est, la suite est arrivée, la suite vient de débarquer au cinéma ce mercredi 19 juin. Eh ben aussi bien que le premier. Hein, je vais pas mentir, c'est vraiment des bons moments, on passe un excellent moment, il y a un super casting de voix. Alors oui, on retrouve Joie bien sûr, Charlotte Lebon, je parle le casting doublage français, Charlotte Lebon qui fait Joie, on a Mélanie Laurent qui est Dégoût, Pierre Niney qui est Peur, Gilles Lelouch qui est Colère. Qu'est-ce que j'adore Colère. Franchement, dans le 2, qu'est-ce que je l'aime, mon petit Colère. Vous avez Marie-Lou Berry qui est Tristesse. Voilà, vous avez ces personnages qui sont de retour, ces émotions très fortes. Et puis, vous avez une petite nouvelle qui arrive avec tous ses bagages et d'autres émotions, c'est Anxiété. Et je suis ravie que ce soit Dorothée Pousseau qui fait la voix d'Anxiété, parce qu'on découvre une palette incroyable. Elle fait tout. Elle fait tout passer Anxiété. Et en fait, je vais pas mentir, mais chacun a sa vérité. Joie se dit, si on enlève des émotions, enfin des choses pas bien que Riley a subi, hop, elle s'en portera mieux. Si on fait ça, hop, elle s'en portera mieux. Tristesse pense que il faut un peu accepter d'être triste. Voilà, peur à ce truc de dire, ouh, attention, faut faire attention à tout. Donc chacun a sa vérité, et c'est le cas d'Anxiété qui se dit. Eh ben oui, on peut travailler ensemble, et puis elle va vivre plein de choses. Et elle, en fait, elle voit l'avenir. Elle voit pas le moment présent, elle voit un petit peu, mais elle, pour elle, le plus important, c'est l'avenir. Et si elle ne fait pas ça, eh ben il va se passer ça pour Riley, et ça, et ça, et ça. Donc du coup, elle anticipe tellement qu'elle vit pas le moment présent, et qu'elle est toujours anxieuse. Elle est toujours à se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si on fait pas bien ça. Et donc il faut faire ça dans un certain sens, et ça donne un rythme effréné. Et on rit, on passe un bon moment, on est vraiment dans le truc. Après, eh bien, il y a d'autres personnages importants. Il y a Envie qui est la voix, c'est Cassie Chase, et Envie, elle jalouse tout, elle a envie de plein de choses, et les cheveux, et la façon de jouer, et le fait de faire partie de l'équipe, et tant pis sur les autres. Enfin voilà, et c'est vrai que Riley, elle a des amis. Elle a grandi avec, on le voit à un moment donné. C'est fou parce que on se sert d'un match de hockey, d'un moment de pause d'un match de hockey qui est pas super, pour expliquer en 3 minutes ce qui s'est passé en beaucoup d'années. On est d'accord ?
Oui, totalement. Et après, une nouveauté que j'ai beaucoup appréciée dans ce film, c'est la naissance de l'estime de soi, en fait.
Tout à fait.
Ils font apparaître cette petite chose qui ressemble un peu à une petite boule.
Avec les pensées, avec les souvenirs de Riley.
C'est ça. Et en fait, ils sélectionnent les souvenirs qu'ils veulent pour alimenter cette estime de soi.
Avec un porte-au-loin.
Oui.
J'ai pensé à ça. Moi, j'ai dit, tiens, ça me fait penser à un porte-au-loin comme dans Harry Potter. Sauf que là, c'est une machine qui a créé Joie, qui met tous les trucs pas bons. Hein, et qui les envoie au loin.
Oui, aussi à ça. Mais c'est vrai que l'estime de soi, en fait, c'est très important. C'est très intéressant de voir comment, en fonction des émotions qui dominent les pensées de Riley, en fait, elle va changer. Comment elle va se modifier de par les couleurs de chaque souvenir, en fait, de par les émotions vécues.
Ouais, c'est vrai. Alors on a d'autres émotions. On a ennui. Qui est excellent aussi sur son canapé, avec très malin, hein. Il a l'air, enfin, elle a l'air comme ça, pas que cool tout ça, mais elle est hyper, hyper maligne. Je dis pourquoi elle? Parce que c'est Adèle Exarchopoulos qui prête sa voix à Ennui. Et franchement, c'est du top de top. Et puis le téléphone, ben il connaît parce que ça fond l'adolescence Ennui en fait.
C'est ça, totalement. Et puis après, il y a
Embarras.
Oh oui.
C'est Maxime O'Hara qui prête sa voix. Et Embarras, qu'est-ce qu'il est touchant. Voilà, la personne, bah, quand vous avez un problème, quand vous avez fait une bêtise, ou quand vous dites un truc et vous vous apercevez que, bah, c'est pas bon, vous faites ça, et ben, c'est l'embarras.
C'est ça.
J'ose pas. Je sais pas si je vais le faire. Et on est tous emprunts de ces émotions. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien mis en avant. Et puis, il y a ses amis aussi. Ses amis qui sont hyper, hyper importantes. Et le fait que, bah, malheureusement, elles vont partir. Et la laisser seule. Et ben, bah, il y a ce stage où elle peut rencontrer une nouvelle équipe et savoir si elle garde cette amitié ou si elle privilégie l'équipe. Et Anxiété, bah, va donner toute cette vibe avec les nouvelles émotions et puis dire « Ah bah d'accord, les anciennes émotions, vous êtes pas d'accord ? Allez, au rancard !» Sauf que on peut pas mettre au rancard d'anciennes émotions. Ça. Et ça donne tout un film qui est vraiment... Il y a beaucoup de vigueur, il y a beaucoup d'entrain, il y a des remises en question, il y a des choses où tu te dis est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou est-ce que je devrais laisser Riley décider par elle-même? Est-ce qu'on a voix au chapitre? Est-ce qu'on peut diriger quelqu'un ou eh bien laisser s'épanouir et choisir et faire ses propres erreurs et avancer comme ça tout en étant là pour l'aider? C'est un peu, pour moi, les émotions qu'on voit dans la tête des personnages, c'est un peu les parents qui sont là, qui essayent de driver. Alors, soit il y a des surprotecteurs, comme Anxiété ou Joie, qui disent « Ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, attention, c'est trop machin. » Et puis d'autres qui laissent un peu s'épanouir l'enfant et qui se disent « Bon, allez, chut, on lâche un peu la bride et on laisse un peu faire. » Même si on donne des petits trucs, des petites choses, on laisse notre enfant choisir et faire des mauvais choix et des bons choix.
Oui, totalement. Et puis ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film également, c'est le moment auquel il sort, c'est-à-dire je sais plus exactement combien d'années
9 ans.
9 ans, c'est ça, après le premier film. Et du coup, il y a des enfants qui étaient tout petits quand ils ont vu le premier, à qui ça correspond super bien le deuxième film qui arrive justement à l'adolescence. Donc c'est vraiment génial, je trouve.
Ouais, on s'y reconnaît dedans.
Oui, on peut s'y reconnaître plus ou moins en fonction des tempéraments de chacun, mais c'est vrai que c'est un film qui reste assez universel, on va dire, par rapport à l'adolescence. Et puis après, également, il y a les changements récurrents d'émotions qui sont très propres à cette période de la vie, à l'adolescence. C'est ouais, franchement, il est très très bien pensé.
Ouais, il est très bien fait. On passe un bon moment, aussi bien petit que grand. Et d'ailleurs, on va écouter vos avis.
C'est pas aimé ?
Oui, j'allais bien.
T'as bien aimé le film ?
Qu'est-ce que t'as préféré ?
Je préfère les émotions.
Les émotions ?
Non, j'ai préféré la joie.
La joie, oui.
Est-ce que tu peux me dire ton prénom et ton âge ?
Théa et 4 ans.
Oui, ça allait. Enfin, nous, c'est la première fois qu'on voit en 3D, donc c'était pour découvrir aussi le 3D. C'était pas mal. On a vu le 1, le 2, c'est plutôt une suite logique.
Un petit mot sur le film ?
Non ?
Non, je trouvais que c'était bien.
C'est quoi ton émotion préférée ?
La joie.
La joie.
Est-ce que je pourrais avoir ton prénom et ton âge ?
Manon.
Et Manon. Ton âge ?
Et 11 ans.
Et votre prénom, madame ?
Audrey.
C'était très bien.
Pleurer.
Un petit mot sur le film ?
J'ai adoré, c'était bien. Après, un peu moins que... Ça répétait un peu le premier, mais dans l'ensemble, c'était bien.
Et vous, madame ?
Moi, j'ai retrouvé mes enfants dans le film qui sont ados.
Je confirme.
Voilà, c'est tout.
Merci. Je pourrais avoir vos prénoms et vos âges ?
Moi, c'est Mali Véry et j'ai 14 ans.
Léa Véry et 13 ans.
Je pourrais avoir votre prénom, madame ?
Mélanie.
Bon, on a beaucoup aimé. C'était un sympathique film, agréable et
voilà, c'était on a passé un bon moment. Voilà.
Merci, je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît.
Pascal. C'était super chouette. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les garçons?
Moi, j'ai trouvé que c'était très émotionnel et que c'était bien.
C'était émouvant de voir cette petite fille grandir.
J'ai un peu aimé. Et voilà.
Est-ce que je pourrais avoir vos prénoms et vos âges?
Élie, et j'ai 9 ans. Sacha, j'ai 10 ans.
Et votre prénom, madame?
Géraldine.
T'as aimé le film?
Oui, il était bien.
Il était bien?
Oui, il était très bien. Les animations lycée, c'était de très bonne qualité.
Merci. Ouais. Je pourrais avoir votre prénom?
Adam.
Ah oui, on a adoré. C'était super, on avait vu le premier volet, et le deuxième, on l'a trouvé encore meilleur. Donc, super.
Merci. Vous voulez me dire un mot sur le film?
Pareil, même chose, exactement pareil. Donc l'idée était géniale. Donc surtout les messages qui est passé, donc qui font passer. Donc c'est parfait.
Merci. Je pourrais avoir vos prénoms?
Blandine.
Mirko.
C'est eux surtout alors?
Très bien.
C'était quoi ton préféré?
Moi c'était Anxiété.
Anxiété.
Et l'autre là, celui qui fait ça?
Embarras.
Et colère, c'est mon préféré, ça c'est
sûr. Tu es fan de colère depuis longtemps.
Ouais. Moi, comme toujours, dégoût.
Moi, je suis colère.
Ouais. C'est la meilleure, franchement. Et en nouvelles émotions, envie.
Envie.
Ouais.
C'est vrai qu'elle était mimi, envie.
Une toute petite.
Elle est sage, quand même.
Et vous, madame? Comment vous avez trouvé?
Moi, je trouve que ces deux films sont vraiment super bien faits à chaque fois. Donc,
ça nous représente bien, nous.
Nous, on a des enfants de la génération 1 et 2. Donc, comme ils sont en pleine adolescence, c'est chouette. Parce qu'on les retrouve, nous aussi, du côté des parents. On se retrouve bien aussi. Donc, c'est chouette.
On se pose plein de questions, nous aussi.
On voit à quoi on a droit en semaine. Et puis, on les retrouve dans le dessin animé. Donc, c'est marrant.
Est-ce que je pourrais avoir votre prénom? Non, s'il vous plaît.
Vous pouvez mettre Sylvie si vous voulez.
Axel.
Axel, et t'as quel âge, Axel?
Moi j'ai quel âge? 11 ans ou 12.
11 ans.
Et toi?
Alix.
Et tu as
13 ans. 13.
N'hésitez pas. Moi, c'est vrai que je l'ai vu en avant-première avec mon fils au Cégère Blagnac en ICE. C'est vrai que cet écran assez impressionnant, c'était vos retours. Et puis, Léonie l'a vu en Dolby 3D. Au Patty Wilson, donc oui. Là encore, c'était toute une émotion, c'est vrai que on ressent ce son, tout ça, c'est vraiment un film qui se prête, on aime ce côté, et puis il y a tellement de choses qui passent que ça nous permet de prendre tout en compte, et la 3D, et puis ce grand écran Dolby, c'est magique.
C'est ça, c'est magique pour un film qui était aussi attendu.
Alors Riley, et ce stage?
C'était bien.
Elle part en stage pendant 3 jours et on a droit qu'à... C'était bien!
Quoi? Elle part en stage pendant 3 jours et on a droit qu'à... C'était bien!
Oui, pourquoi pas? Quel devenu? Retour au match!
Ça va, c'est quand même ça!
C'est parti! Par Disney et Pixar.
Riley est officiellement une adolescente.
T'as pas encore fait ton sac?
C'est complètement nul!
Un peu excessif, non?
Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché!
Laissez faire la professionnelle.
Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre!
Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années.
Le 19 juin.
Je suis Anxiété, je suis ta fan numéro 1 depuis toujours.
Je fais partie des nouvelles émotions de Riley.
Waouh! Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral?
Nostalgie.
C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie.
Oui, c'était le bon vieux temps.
Le film pour ressentir plein d'émotions.
On fait la bataille! C'est bon, je vais me les faire.
Non, collègue.
Arrive au cinéma.
Oh, des Takiwaki, tiens! Check, 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 tu m'entends?
Il faut que j'appuie sur le bouton.
Ici, joie, bien reçu, terminé. C'est génial. On regarde par en bas et avance. Elle va réussir. Pas vrai?
Coussi coussa, vice versa 2.
Il y a un chapitre 2. On y va!
Exclusivement au cinéma le 19 juin.
Je le rappellerai jamais assez, mais pour vivre des émotions comme ça, eh bien, ce sont des comédiens qui sont derrière et qui nous donnent ça, qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous touchent, qui nous apportent tout ça. Donc, n'hésitez pas à signer la pétition. Touche pas à ma VF, qui est hyper importante pour pas qu'on ait des IA qui diront le texte, mais qui n'auront pas cette émotion et cette vie. Parce que un comédien, c'est un métier et c'est ça qu'ils font passer.
Et oui, c'est vraiment, c'est eux qui ont pour l'instant, c'est pas l'intelligence artificielle qui a un cœur, ça reste l'humain, donc c'est lui qui peut justement le mettre à plein, qui peut le partager grâce à sa voix en doublant des personnages, et c'est ce qui est beau dans le doublage justement.
Le dernier film que je vais vous parler, c'est un véritable coup de cœur. C'est vrai que, eh bien, je me suis dit, tiens, un film dystopique, un thriller, ça me donnait envie. Je n'avais pas vu le synopsis, je n'avais pas vu la bande-annonce, j'avais juste vu l'affiche et franchement, ça me donnait envie. En plus, sur l'affiche, vous avez Emily Deakin. Je l'attendais avec impatience, son retour, et je n'ai vraiment pas été déçu.
Une catastrophe bouleverse la planète. Les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés. Les océans ont anéanti les continents, laissant derrière eux un vaste désert. Dans ce monde ravagé, une famille doit lutter pour sa survie. Quand les pôles s'inverseront à nouveau, il sera trop tard.
C'est un film de Frédéric Jardin. C'est vraiment un film incroyable. Moi, j'ai pas pu rester tranquille sur mon siège. Bah oui, je vivais l'émotion, c'est un tourbillon d'émotions, sans mentir.
Oui, totalement. Et puis, c'est vrai que ça paraît hallucinant, tous les plans, tout ce qui a été fait par rapport au budget qu'ils avaient. C'est vraiment impressionnant pour 4 millions, c'est ça?
Ouais, moins de 5 millions d'euros, 4 millions, ouais, en effet.
Pour 4 millions d'euros, ils ont réussi à créer à faire des décors, à faire des mises en scène qui, franchement, se valaient à côté d'un film hollywoodien, je trouve.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont donné beaucoup. Il y a énormément de plans réels. On croirait que beaucoup se sont faits dans des studios. Eh bien, non, c'est fait réellement. Il y a la mer, il y a une tempête. Eh bien, là, ce sont des plans réels qui ont été faits. Pour vous donner une idée, en général, dans les studios, c'est avec des pitons, des machins qui bougent tout seuls et tout. Là, ce sont les équipes de films qui ont arrimé le bateau et qui ont fait bouger, tanguer le bateau dans tous les sens pour que ça fasse des vagues assez hallucinantes. Et c'est des plans réels. Quand vous êtes à un moment donné, quand la mer se retire et que ben les pôles se sont inversés justement et que la mer est arrivée à la place des qui est arrivée où il y avait les continents, et il ne reste plus rien aux autres avec ces bateaux qui sont échoués, ces poissons qu'on voit de temps en temps à des moments. On se trouve dans un univers dystopique, apocalyptique, où vous êtes dans un grand désert et c'est le fond des océans et c'est hyper bien fait et ça a été tourné au Maroc et ce sont des plans réels. C'est hallucinant. Alors pour la direction artistique et effets visuels, c'est Alain Carsou qui était aux manœuvres. Et franchement, tout ce qui est, par exemple, à un moment donné, vous voyez tomber des choses du ciel, je vous dirai pas quoi, mais vous voyez des choses tomber du ciel. Ils sont partis en vacances, tranquilles, sur un bateau, ils profitent, lui est océanographe, elle est médecin, les enfants, hein, 13-16 ans. Lisa Delamar qui joue Cassie, Lucas Ebel qui joue Ben, voilà, ils sont tranquilles et puis il y a ce changement, ils se retrouvent au fond de l'océan, mais c'est un désert, ils se retrouvent voilà sans eau et ils doivent s'en sortir. Il y a un événement qui va se passer qui va donner quelque chose d'atroce où la mère va sortir les griffes, va devenir une louve, protéger ses enfants coûte que coûte et devenir une vraie guerrière. Et franchement, un tour d'interprétation comme ça, c'est incroyable. On voit que c'est très physique et c'est pas du chiquet. Ils ont vraiment vécu des moments très physiques sur ce tournage, très compliqués, des moments où bien ils sont dans la nuit, il y a des scènes très très fortes dans un avion par exemple, où avec des conteneurs où ils ont cette impression et c'est vrai que on ressent toute en même temps on vit chaque émotion avec eux, on se demande s'ils vont survivre et c'est un vrai survival. Et elle est à se dire mes enfants, je veux sauver mes enfants coûte que coûte. Moi ce qui m'arrive, c'est pas grave, mais je vais tout donner pour sauver mes enfants. Et voilà, on est vraiment dans un truc où on se dit c'est impossible. Les pôles peuvent pas. Et ben si, les pôles se sont déjà inversés. Il y a déjà eu ça il y a 700 000 ans. Et où a été tourné ce film avant? Il y avait la mer.
Ouais, c'est magnifique. Et pour en revenir à la mère Warrior qui pense à ses enfants avant tout, il y a un moment qui représente très bien ça justement. C'est quand ils disent on est allé te chercher de l'aide, et elle a dit directement il est où Ben. C'est vraiment elle pense à ses enfants avant tout. C'est sa priorité en fait. C'est l'instinct maternel qui prend le dessus sur tout.
Ouais, c'est pour ça qu'on est à fond dedans. Enfin, moi qui suis maman, c'est vrai que je me dis, ouais, non, il faut sauver. Voilà, elle est à fond et on suit ses périples et on se demande s'ils vont réussir, puisqu'ils doivent arriver à un endroit pour pouvoir s'en sortir, parce que bien les pôles vont se réinverser et la mère va revenir et ça va être horrible.
Oui, et puis ce que j'ai adoré dans le jeu d'actrice d'Emily Deakin, c'est le fait qu'elle est réaliste dans ses mimiques, dans ses actions, et qu'elle ne cherche pas forcément à crever l'écran de beauté. Elle cherche vraiment à être la plus réelle possible dans tout ce qu'elle vit. Et c'est ça que je trouve incroyable.
Ouais, et je vous propose d'écouter les avis.
J'ai plutôt trouvé ça sympa comme film, ça, avec le suspense et tout. J'ai plutôt bien aimé, même les décors. C'est assez sympa, comme c'est au côté science-fiction aussi. Les décors sont plutôt bien faits, sous les océans qui sont carrément vides aussi. J'ai trouvé ça sympa.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Dorian.
Bon, franchement, rien à dire. Elle est bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien kiffé.
Et vous ? Ça va, ça a été.
Merci. Est-ce que je pourrais avoir les prénoms, s'il vous plaît ?
Moi, c'est Hamza.
Et moi, c'est Ajar. Ben, on n'a pas trouvé ça super.
Non, ben, c'était... Qu'est-ce qui vous a manqué ?
Des dialogues, une histoire, un meuble construit, je sais pas. Mais non, ben, c'est un bon moment, quoi. C'est un bon moment, quand même.
Voilà. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Gwen.
Impressionnant pour un film français.
Ouais.
Un film français, un film catastrophe aussi bien pensé. Oui, c'est une très bonne conception en tout cas.
Ouais. C'est une très bonne réalisation.
Réaliste, réaliste et presque une production américaine, quoi. Presque, ouais. Tout à fait.
Merci. Je pourrais avoir vos prénoms ?
Bruno.
Et Hélène.
Merci beaucoup.
La mère revient, tout comme bien tourné, et assez inquiétant, parce que c'est très proche
de la réalité, oui, c'est vrai.
D'une possibilité, quoi.
Étonnant, je pense. Je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà.
Surprenant, on s'attend pas à ça en voyant la bande-annonce, je trouve. Donc voilà. Mais bien, bien fait. C'est un film français, non ?
Oui.
Ouais, pour un film français, c'est bien fait, je trouve.
Voilà. Merci, je pourrais avoir vos prénoms ?
Pauline.
Clara.
Alors, ce film, on l'a vu en premier au CGR Blagnac. Et le film nous a tellement plu, et en plus, on vous réserve une surprise. On l'a vu une deuxième fois au Gaumont-la-Bège. On n'a pas été déçus, on a passé un excellent moment. La deuxième lecture est aussi forte, même si j'ai plus analysé des choses. Il y a des moments où j'ai laissé tomber mon analyse, et même si je connaissais la fin, j'avais encore envie de ressentir ces émotions. Et surtout de compter un certain truc à une scène où j'ai dit waouh, elle est à fond, quoi. Et cette scène, elle déverse toute sa tristesse, toute sa colère, et on ressent chacune de ses émotions, et c'est très fort. Et il y a un très 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 bon travail de son aussi, puisqu'ils sont poursuivis à des moments. Et au début, on voit pas ces bestioles qui les poursuivent, et après qu'on s'aperçoit que c'est des gros crabes et que ça peut exister, puisque c'est des arthropodes
des
qui
abysses.
Sont des abysses, et donc du fond de l'océan.
Mon ami, mon petit garçon.
Arrête, papa.
Mayday, ici Orca, c'est la trompette, on a besoin d'aide.
Papa, il est où l'océan ?
Mayday, l'océan a disparu, 4 passagers à bord. Est-ce que vous savez ce qui se passe ?
Une inversion des pôles magnétiques. L'océan s'est retiré
et a submergé les terres.
Ben!
La dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a plus de 700 000 ans.
L'océan pourrait revenir. Ce sera d'une très grande violence.
C'est quoi ces merdes?
Les arthropodes des abysses. Ils attaquent pour se nourrir.
Ça arrive.
C'était Chaud Devant Ciné, les sorties du 19 juin. Merci énormément au CGR Blagnac, au Pathé Wilson, au Gaumont-Labège de nous permettre de voir des films en avant-première ou pratiquement après leur sortie, le mercredi et le jeudi. C'est vraiment que du bonheur, donc n'hésitez pas à vous rendre au cinéma. Should I stay or should I go?